Bonsoir et bienvenue à Sequoia à Voix de Fait. En fait, ce soir, je suis Guillaume.
Jeannie.
Et on est avec Farouko à la console. Donc, ce soir, on a plein de choses pour vous. Donc, entre autres, quelques actualités. Bon, entre autres, suivi pour le Journal de Montréal, le Lockout. Quelques autres infos.
Je vais vous parler tantôt de deux autres assassinats politiques qui sont survenus en Russie en janvier dernier.
Et on a aussi une entrevue avec un porte-parole de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante. Il y a quelque chose qui se passe cette semaine de leur côté. Puis quelques autres choses, là, entre autres quelque chose que notre ami Farouko a trouvé dans le soleil cette semaine, qui l'a un peu révolté. Donc, ben c'est ça. Fait qu'on retourne, on continue la musique, on revient. Oui.
Oui, hey, ça va mieux quand le micro est ouvert.
Oui, effectivement.
Ah, et je voulais juste dire, ce soir, je vais essayer de souligner musicalement le début du mois de l'histoire des Noirs.
Oui, effectivement, c'est le mois de l'histoire des Noirs ce mois-ci. Donc, c'est Sequoia célèbre ça. Fait qu'on va y aller.
On va y aller avec Tiken Jeff Akoli avec Africain à Paris.
Je pense à toi, je t'écris d'une trois étoiles à Cajun. Tu vois, faut pas que tu t'ennuies ici. J'ai un toit et un peu d'argent. On vit là tous ensemble, on survit. On est manque presque de rien. C'est pas l'enfer ni le paradis d'être un Africain à Paris. Oh, 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 un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Oh, 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 un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Qu'ils nous ont promis des places, mais c'est par la voie des airs. Elles ne sont pas en première classe, c'est un oiseau nommé Chapelle. En attendant que l'oiseau s'envole, des mains noires aux doigts de fée. Autour des casseroles, un soleil au goût de ma fée. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Que travailler. Tu vois, j'en ai de la chance ici. J'aurai bientôt mes papiers. Maman, je sais que tu as l'habitude de trop vite t'affoler. Surtout, n'aie pas d'inquiétude si un hôtel. Étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris.
Vous écoutez Voix de Fer.
C'est toujours, toujours aussi débile, quoi. Faut vraiment être con militaire pour donner des noms comme ça.
Alors, de retour à Voix de Fer, on va y aller en actualité. Alors, comme vous le savez sans doute, le conflit au Journal de Montréal continue. Et la saga des chroniqueurs a atteint un sommet de ridicule en fin de semaine. On sait qu'il y avait Bernard Landry qui avait annoncé son intention de pas cesser de publier sa chronique la semaine dernière. Puis finalement, il a fait volte-face en fin de semaine sous prétexte que le montage est maintenant fait à Toronto. Ben, c'est le fun parce que ça nous permet de voir à quel point, à quel endroit se situent ses priorités. On sait qu'il est à droite, mais pas autant qu'il est nationaliste. Mais de son côté, ben, son ancien collègue ministre péquiste, Joseph Facal, ben, lui, il est résolument plus à droite qu'il est nationaliste parce que lui a décidé qu'il allait continuer à publier dans le Journal de Montréal sa chronique. Mais trêve de plaisanterie, ben, le conflit au Journal de Montréal, c'est un conflit de travail, effectivement, mais ce conflit-là est quand même très particulier, parce que c'est un peu difficile de pour les travailleurs et les travailleuses en général de vraiment s'identifier avec les journalistes du Journal de Montréal, surtout si ceux et celles-ci ont vécu un conflit de travail dans les dernières années et ont dû subir la démagogie antisyndicale de certains et certaines journalistes de ce journal. À ce sujet-là, ben il y a nos camarades du collectif de l'UCL de Montréal qui ont fait paraître un texte qui dénonce justement cette situation étrange. En fait, ce qu'ils nous disent, c'est que en tant que travailleurs, travailleuses, étudiants, étudiantes, précaires et sans emploi, nous pouvons dénoncer la tactique odieuse de l'employeur pour jeter les syndiqués à la rue, ce en quoi nous sommes entièrement solidaires avec tous les travailleurs et travailleuses hors le cadre du Journal de Montréal. Par contre, là où on n'est pas dupe, c'est sur les arguments avancés par leur syndicat pour dénoncer la direction, entre autres leur président Reynald Leblanc qui déclarait dans un communiqué que M. Pierre-Carl Pelado et la direction de Québécois Média, par le geste insensé qu'ils ont posé l'année dernière, menacent la pérennité d'une institution de l'information au Québec. Trouveront devant lui 253 personnes déterminées à sauvegarder les conditions qui assurent à la population une information de qualité. N'agissant de la sorte, le PDG de Québécois a enterré plus de 45 ans de pain industriel qui a permis à un empire de se constituer. Ben, sans vouloir jouer les trouble-fêtes, il serait important de se questionner sur leur vision de ce qu'est une information de qualité et en quoi ce journal est une institution de l'information au Québec. Le journal avec le plus gros tirage au Québec, oui, évidemment, mais qui dit quantité ne dit pas nécessairement qualité. En tant que communistes libertaires, nous luttons sans relâche contre l'exploitation et l'oppression sous toutes ses formes, et beaucoup d'entre nous se sont impliqués solidairement dans différentes luttes de travailleurs et travailleuses, dont celle de l'hôtellerie, et contre la précarisation dans les dernières années. Plus souvent qu'autrement, nous avons affronté la répression policière et la désinformation journalistique. Le tabloïd du Journal de Montréal en fait malheureusement partie, et plus souvent qu'à leur tour, les journalistes de l'Empire québécois ont sombré dans le journalisme de bas étage et dans les éditoriaux d'une triste malhonnêteté pour nous dénoncer et nous discréditer. Mais ce n'est pas que le lot des manifestants et manifestantes et des militants et militantes que d'être dénoncés à travers les pages de ce journal. On peut en effet se rappeler de la campagne de salissage contre les paresseux de col bleu, contre les riches techniciennes en garderie ou contre les étudiants et étudiantes en grève qui se plaignent toujours pour rien. Est-ce que les locataires ont été solidaires par le passé? On se rappelle aussi de la campagne diffamatoire qu'ils et elles ont initiée dans le cadre des accommodements raisonnables. Si ça, c'est une institution de l'information, il y a quelques questions à se poser. Que l'ensemble des locataires soient en accord ou non avec les journalistes qui ont mené ces campagnes, ils et elles réclament néanmoins leur part du profit provenant de la vente de cette démagogie journalistique qu'ils et elles ont cautionnée. Et de l'argent amassé en crachant sur ceux et celles qui, à ce moment, auraient possiblement eu besoin de soutien et de solidarité plus tôt que d'articles mensongers. Paradoxalement, beaucoup des gens qui les appuieront dans leur lutte et qui lisent leur journal font malheureusement partie des groupes sociaux contre lesquels ils et elles écrivent régulièrement. Les travailleurs et travailleuses en lutte, les précaires, les sans-logis, les assistés sociaux, les jeunes, les étudiants et étudiantes, les immigrants et immigrantes et les syndiqués. Maintenant, ils et elles ont l'audace ou l'humilité de demander à la population de les appuyer dans leur lutte afin de continuer à nous fournir de l'information de qualité selon leurs critères. Nous en sommes un peu perplexes. Nous savons que les 253 employés en lutte ne sont pas tous et toutes des idéologues populistes qui ne travaillent que pour vendre la ligne idéologique de leur patron, mais malheureusement, ils font partie de cet appareil qui sert à endormir et désinformer la masse. Certains de ces journalistes, autant que dans tous les médias, réussissent toutefois à être objectifs et objectives et honnêtes dans leur travail, mais ce n'est pas le lot de tous et toutes. Et par contre, utiliser l'argument que c'est la direction qui impose sa ligne éditoriale en permanence est selon nous un prétexte fallacieux pour démontrer l'absence de rigueur journalistique de plus en plus flagrante dans les médias de l'information au Québec. Nous souhaitons sincèrement que leur publication électronique ait la prétention journalistique de ressembler à Rue 89, autant dans sa pertinence que dans son caractère dénonciateur des injustices, ce qui est plutôt rare pour un média de masse. Nous sommes solidaires de leur lutte contre leur employeur, mais nous devons toutefois témoigner de notre mépris envers leur journal et sa fonction idéologique. Paradoxalement, à propos de leur président syndical, les locatés ont d'ailleurs qualifié de médiocre leur propre journal sur leur nouveau média, Rue Frontenac. Leur lutte et la création de nouveaux médias électroniques est l'occasion pour eux de créer un journal qui permettrait aux autres travailleurs et travailleuses en lutte, aux précaires et aux exploités d'avoir eux et elles aussi une voix. Ils et elles pourraient pour une fois dénoncer l'exploitation plutôt que d'être les porte-voix. Cet outil pourrait même demeurer une arme lorsque leur lutte se terminera. On peut en rêver, mais permettez-nous d'être sceptiques. Nous ne pouvons fermer les yeux sur le bilan néfaste de leur journal, c'est pourquoi notre solidarité ne sera que de principe à ce point-ci, en espérant que de les retrouver pour une fois du côté des précaires et des exploités, alors que beaucoup leur seront solidaires, leur fera réfléchir à leur fonction et au rôle néfaste socialement que leur journal joue. Soyons solidaires de tous les précaires et des travailleurs et travailleuses en lutte et boycottons l'Empire québécois à jamais. Donc, ça, c'est le texte qui a été adopté par l'Union locale de Montréal. C'est pas la position officielle de la nuit, mais je tenais quand même à la présenter parce que c'est quelque chose qui rejoint nos positions. On s'entend qu'on fait partie de la même fédération. Alors, voilà pour ce qui est du Journal de Montréal. Et maintenant, il y a aussi... L'autre nouvelle qui a retenu mon attention cette semaine, qui démontre bien à quel point la politique et l'économique s'en sont à un point cyniquement proche. On a vu que, bon, avec la valse des milliards qui vont et qui viennent actuellement avec la crise économique et tout ça, mais qui finalement sortent toujours des poches des travailleurs et travailleuses, ben il y en a un de plus qui nous prouve à quel point le système politico-économique est pourri. J'ai nommé le sénateur libéral Paul J. Massicotte. Ce sympathique personnage a une étrange éthique, on pourrait dire, parce que... En fait, ce monsieur-là, qui est un comptable qui a fait fortune dans le domaine immobilier dans l'ouest du Canada et au Québec, entre autres avec les compagnies Alexis Nion, ben il a été nommé sénateur par Jean Chrétien en 2003, alors qu'il était toujours PDG de cette compagnie, qui faisait d'ailleurs pas mal de profits en louant des locaux au gouvernement fédéral. Jusqu'en 2007, il est resté président de cette compagnie-là tout en étant sénateur. Puis par la suite, ben quand le gouvernement Charest a décidé de privatiser les quatre hippodromes du Québec, ben il s'est présenté comme ça, puis il a dit moi, vous m'allez acheter les hippodromes, je vais vous sauver ça, cette industrie-là, ça va aller bien, même si ça allait pas bien pantoute sous l'Auto-Québec. Puis fait que finalement, il a acheté ça, puis quelques mois plus tard, ben il s'est rendu compte que ça marchait pas pantoute, puis qu'il fallait que le gouvernement l'aide. Puis le gouvernement a dit la semaine dernière que, ouais, c'était correct, qu'il allait y donner 40 milliards pour 25 ans. 40 millions pour 20, par année pendant 25 ans, pardon. Ce qui fait 1 milliard au total.
J'ai trouvé gros, là.
Ouais, non, c'est un peu trop, là. C'est ça, mais c'est avec les gros chiffres, là, tu sais, aux États-Unis, puis tout, ça m'a mêlé. Mais c'est ça, 40 millions par année pour 25 ans. Ça fait un beau petit fonds de pension quand même pour sa retraite.
Il n'a pas encore son salaire de sénateur, lui.
Il a encore son salaire de sénateur, puis il n'est pas proche encore d'avoir 75 ans. Fait que,
De toute façon, c'est à vie, cette affaire-là.
Non, le poste, je pense, c'est jusqu'à 75 ans. Mais peut-être pas le salaire, là, ça, je avoue que je suis pas au courant.
Ah, il y en a un de 80 ans qui est mort récemment encore.
Ah oui? je savais pas.
Ils peuvent même mourir sur leur chaise, s'ils veulent.
Maudit. Fait que, Quand on voit bien à quel point, quand on a des amis bien placés, on s'en tire bien, puis comme tout va bien dans le meilleur des mondes. Hein,
c'est... J'aimerais savoir des amis de même, mais un milliard.
Un milliard.
Quoi, 25
ans. Mais tu sais, c'est comme, tu sais, c'est pas beaucoup, 40 millions par année quand même, tu sais, quand on regarde.
Quand t'as un haut niveau de vie.
Ouais, c'est ça. Bon, ben on va la musique.
Ouais, on va enchaîner immédiatement avec Webster, avec Québec History X sur les ondes de Voix de Fait. C'est Kaya.
Ramène dans le temps pour quelques instants. Vous dévoilez des faits qu'on n'apprend pas forcément. J'entretiens une autre histoire, celle qu'on voit pas dans les cours. Amérindiens et les Noirs, celle qu'il faut remettre à jour. Par où commencer, pour vous dire comment c'est. D'abord pour nuancer l'histoire et romancer. Manipuler les décrets par les vainqueurs. Dans une partie dissimulée, les époques et d'apposir. Back in the day, sur de 1604, Champlain débarque avec à son bord plaque. Mathieu d'Acosta dit l'interprète. Il parle micmac, français, hollandais. En 1629 arrive Olivier le Jeune, premier esclave répertorié dans la jeune ville de Québec. Au moins 10 000 esclaves au Canada jusqu'à l'abolition de ce droit en 1833. Yo, c'est fou, à force de pureté en masse, j'ai couvert que Lionel Roux prenait la pureté des races. C'est la même pour Garneau, FX Garneau. Québec History X, ils ont passé du tableau. Mais pourtant, y'avait des hommes d'affaires noires, on était dans les régiments. D'autres étaient croire du bois, mais aussi des aubergistes. Et ils veulent pas croire que les Noirs sont d'ici depuis les années 70. 779, point du sable Jean-Baptiste. Métis entière, fondeur poste de traite en Illinois. Norwood des Olapes, Chicago. Black francophone, à fond des Chicago. Jackie Robinson, Olivier Clark, Oscar Peterson, la liste est longue, mais pas tant que ça. Gros déro oublié qui ont contribué à notre passé, mais un peu pour le souligner.
I'm not controversial, I'm just sneaking the facts. Y'a fait that speak with your weak mind last. I'm not controversial, I'm just sneaking the facts.
Au 19e siècle, c'est pas du tout fini. Ils ont envoyé les Chinois faire le chemin de fer de tout le pays. Des donateurs vivants, ils ont envoyé creuser la roche avec de la nitroglycérine. Ça sautait à leur approche. Le pâté chinois, ça vient de là. Bœuf, maïs et patates, tout ce qu'on trouve dans le West Side. À toi et moi, ça a rien d'oriental. C'est une mixture pour leur donner pour les nourrir en tas. Maintenant, les Indians, oh, les Indians, man. Ils l'ont eu balle, les Indians. Genocide à grande échelle, à trop grande échelle. La mémoire des Amériques est à jamais entaché. Premières armes bactériologiques, on leur donnait des couvertures, un bibi de variole. Tu vois la suite, un choc microbiologique et viol culturel. Être vu un étranger sur sa propre parcelle. De terre ancestrale, c'est l'ère industrielle. Fait qu'encore 21e siècle, l'arme des ancêtrales. Parle de viol, d'école et d'alcool dans les viols. Le haut taux de suicide démontre de fucking ras-le-bol. Dans les réserves, je comprends qu'il y en a qui allaient s'attaquer au gouvernement. Comme dans le temps qu'il allait s'attaquer.
I'm not controversial, I'm just speaking the facts. Got to speak with your weak mind last. I'm not controversial, I'm just speaking the facts. Make you wake you up out of your brainwashed face.
Alors, re-bienvenue à Voix de Fait. Maintenant, cette semaine, il y a l'Association pour une solidarité syndicale étudiante qui a lancé un front commun d'organisations syndicales, qui est à l'origine de ce front commun-là, qui lance publiquement un manifeste contre la privatisation des services publics. Élaboré par l'association étudiante, la C, le manifeste pour un système public, libérons-nous du privé, dénonce la logique du privé qui prévaut dans l'ensemble des services publics. Le texte a déjà récolté l'appui de plus de 1200 citoyennes et citoyens, ainsi que de 74 organisations sociales représentant plus de 200 000 personnes issues des mouvements de femmes, étudiants et communautaires, de même que d'organismes de défense de droits sociaux, de l'immigration, de lutte à la pauvreté et pour le droit au logement, ainsi que de certains groupes politiques. Donc, pour en parler, j'ai avec moi Alex Desrochers, qui est secrétaire aux relations externes de l'AC. Bonjour Alex.
Bonjour Guillaume.
Oui, donc, sur le lancement qui a eu lieu cette semaine, est-ce que tu peux... En fait, c'est assez rare qu'on voit des associations étudiantes côte à côte avec le mouvement communautaire. Donc, pourquoi l'AC, une fédération de syndicats étudiants, s'associe-t-elle à une panoplie de groupes de ce genre-là pour cette campagne-là?
Ben, je pense en fait que la privatisation en tant que telle là, touche beaucoup de milieux, là, que ce soit l'éducation, la santé, les transports, etc. Je pense qu'il était important, en fait, si l'AC voulait mener une lutte contre la privatisation du service public, qu'elle devait absolument s'allier avec d'autres acteurs de la société, soit des syndicats, des groupes communautaires, des groupes de femmes, etc. Parce qu'en fait, la privatisation ne touche, comme je disais tantôt, simplement pas juste l'éducation, mais d'autres domaines, dont la santé, le transport, puis c'est d'autres groupes qui sont peut-être plus touchés par rapport à ça. Puis on va prendre le transport. Oui, les étudiants et étudiantes, au niveau du transport, ont besoin de se transporter, mais aussi les groupes de chômage, etc. Leurs membres sont grandement touchés par ce qui se produit actuellement dans la société. Fait que je pense que de faire un front commun contre la privatisation, ça devenait une nécessité, en fait, là, si on voulait réussir vraiment à percer un peu plus là, dans notre discours dans la société.
OK. Puis comment vous entrevoyez la relation avec ces groupes puis la participation ensemble? C'est quoi vos points de rencontre, dans le fond, dans la coalition, le Front commun?
Tu parles au niveau du plan d'action?
Ouais, au niveau du plan d'action puis des collaborations en général qui a eu lieu à date, là.
Ouais, mais en fait, à date, c'est ça, il y a eu vraiment un gros travail, justement, de sensibilisation, au niveau des groupes pour aller chercher les appuis. Puis c'est pas terminé, en fait. Il y a d'autres groupes qui sont actuellement en consultation pour nous appuyer, pour avoir surtout au niveau syndical, la consultation est plus longue. Dans les prochaines semaines, il va y avoir d'autres groupes qui vont appuyer, comme je l'ai dit. Donc, au début, ça doit tout être un travail, si on veut, de conscientisation, d'approcher ces groupes-là qui sont pas nécessairement habitués de se faire approcher par le milieu étudiant, là, comme tu l'as dit en entrée de jeu. Fait que ça, je pense que ça a été un travail qui était bénéfique dans le cas de cette campagne-là, puis qui pourrait aussi être bénéfique à long terme, de voir justement des alliances comme ça avec les différents groupes. Sinon, au niveau du plan d'action puis de qu'est-ce qui s'en vient, lance du 23-27 février des journées de boycott de l'entreprise privée sur les campus. Les autres groupes participeront plus ou moins à cette activité-là, c'est davantage axé sur l'éducation. Mais l'objectif, c'est de dénoncer, si on veut, la présence du privé sur les campus, que ce soit au niveau du privé dans les cursus scolaires, au niveau de la gestion des universités, au niveau des services, les cafétérias, les librairies, etc. Mais sinon, avec les autres groupes, la collaboration qu'on vise à long terme, c'est la manifestation qu'on organise le 26 mars prochain, donc où les organisations, justement, sont appelées à participer massivement, soit en contingent ou en venant simplement dans la manifestation. Puis là, on travaille actuellement à tenter d'élaborer une espèce de plan d'action sur comment justement que les groupes pourraient participer, la production d'un journal, etc. Donc on est en train de travailler sur plusieurs dossiers à ce niveau-là.
OK. Par rapport aux journées de boycott, je veux dire, une semaine de boycott, c'est quand même pas énorme. Est-ce qu'il y a eu d'autres sensibilisations en général depuis le début de la session puis la session dernière pour justement sensibiliser les gens à leurs achats à l'école, dans le fond, par rapport aux compagnies privées qui s'y trouvent?
Il y en a eu. Je dirais que ça dépend des campus. Les campus s'orientent différemment dans le cadre sur le privé. Il y a eu des boycotts qui ont été organisés à des journées ciblées la dernière session. Je pense au chef de Maisonneuve, je pense au chef de Sherbrooke ou au chef de Saint-Jérôme. À l'Université d'Ottawa, qui a eu une grosse lutte, justement, parce que même la cafétéria a déjà quitté, dans le fond, les murs de la compagnie privée a déjà quitté les murs de l'université, en fait. Donc, il y a eu des sensibilisations sur certains campus, des actions comme ça. Sinon, il y a eu, à travers nos journaux, nos parutions, notre revue qu'on a faite sur la privatisation, il y a eu un discours qui a été emmené, puis une sensibilisation qui a été faite par rapport à ça. Mais je te dirais que au niveau de sensibilisation en tant que telle aux journées de dénonciation, ça commence en fait depuis la rentrée, là. On a produit des choses par rapport à ça, donc du matériel, fait que on espère que ça va être un succès là, sur plusieurs campus. Là.
OK. Puis, les suites de cette campagne-là, vous les envisagez comment? Là? C'est ça, il y a la manifestation, mais après ça, est-ce que ça va continuer par la suite?
Ben pour ce qui est du Front commun, ça va continuer par la suite. Ben je pense que ça va être à voir là. Ça va être à voir aussi au Congrès de la CIC quelles seront les priorités qui vont être mises de l'avant. Puis aussi voir les autres groupes, est-ce qu'ils ont participé beaucoup à la manifestation, etc. Voir s'il est possible d'avoir de collaboration possible dans le futur. Est-ce que ce Front commun là pourrait par la suite réagir régulièrement à des actes sur la privatisation, par exemple, qu'il y aurait des annonces. Qui se passerait dans l'actualité, peut-être, là, je pense qu'on n'est pas encore rendu à voir le futur pour l'instant. Je pense qu'on se concentre très probablement sur chercher des appuis, la conférence de presse, puis la manif sera le prochain cheval de bataille, dans le fond, à savoir si on a un potentiel mobilisateur intéressant.
OK. Par rapport au manifeste, là, je sais que ça a été lancé à la fin de l'automne ou en fait au début décembre, c'est ça?
Oui, c'est au mois de novembre,
c'était lancé. Le mois de novembre, OK. Puis, en gros, c'est quoi les gros points là sur qu'est-ce qui est dénoncé là par rapport à ce qui se passe dans les institutions scolaires?
Il y a plusieurs. Le manifeste, comme vous avez pu le lire, il n'est pas nécessairement axé sur les institutions scolaires. Le manifeste se veut quand même plus large là, pour essayer justement de rassembler les différentes sphères de la société, les différents groupes, etc. Il y a toute une section sur toute la logique, si on veut, la logique privée qui touche nos institutions, autant l'éducation ou quoi que ce soit, la logique de rentabilité, la logique de, au lieu de desservir un service, si on veut, un service public, un service de qualité qui est offert également à la société, toute une espèce de logique privée, ça c'est clairement dénoncé à l'intérieur du manifeste. Je pense en fait que c'est le point central là, de la dénonciation à l'intérieur du manifeste. Puis sinon, ben il y a toute la question aussi pourquoi le privé justement s'est mis dans les programmes sociaux. C'est quoi l'intérêt du privé à investir en éducation à l'extérieur des impôts, là, parce qu'ils sont supposés payer des impôts pour financer le réseau public. Pourquoi c'est avantageux pour eux d'investir directement là-dedans? C'est quand même bien expliqué dans le paragraphe du manifeste, le privé, c'est la précarité. Mais en fait, j'invite aussi les gens à aller en ligne sur nonprivé.info pour lire le manifeste qu'on parle, justement, puis peut-être même l'appuyer si jamais les revendications mises de l'avant sont en accord avec leur principe.
OK. L'adresse, donc, nonprivé, sans accent, j'imagine, .info, c'est ça?
Exactement.
OK. C'est ça, j'imagine, il y a aussi le site de l'AC qui est www.asse-solidarité-sans-accent.qc.ca pour prendre d'autres informations.
Exactement. Il y a une section complète sur notre site qui est réservée à la campagne sur la privatisation. Là. À l'intérieur, on peut trouver plusieurs choses, plusieurs parutions qui ont été faites, le manifeste en tant que tel, il y a des pétitions aussi qu'on peut faire imprimer pour faire imprimer dans vos milieux, là. La section est quand même assez complète.
OK. Tu as parlé de la manifestation. Est à Montréal, cette manifestation-là, le 20...
La manifestation, ça va être le 26 mars en direct du Square Berry.
OK. Et est-ce qu'il y a des activités qui vont se passer à Québec d'ici là?
On espère. En fait, il y a des gens, notamment à l'Université Laval, qui s'organisent dans le cadre des journées de boycott pour essayer justement de relancer un peu le boycott contre Sodexo là, qui avait été fait il y a 2 ans.
Avec le collectif de minuit, c'est ça?
Exactement. À l'Université Laval, il y a des gens qui travaillent sur le dossier actuellement. Pour la manifestation, on espère qu'il va y avoir des gens de Québec qui vont venir, il va y avoir du transport qui va être organisé là, à partir de Québec. Donc, en espérant une participation massive des gens de Québec.
Bon, merci beaucoup, Alex. On va suivre vos activités avec intérêt. Puis on vous souhaite la meilleure des chances pour la suite de la campagne.
Ben, merci beaucoup, c'est un plaisir.
OK.
Au revoir.
Au revoir. On s'en va en musique.
Oui, la prochaine, c'est une spéciale dédicace à toutes les femmes noires qui nous écoutent. Je vous donnerai le titre après. Oh,
Domine exodi, orationem meam. Dominus vobiscum, et spiritus sanctus. Amen.
Vous écoutez, Voix de Fer.
Voilà, ah bah, là c'était bon, hein.
Oh oui, mais c'était court.
Oui, juste avant notre super indicatif offert par notre camarade François, on a entendu Phyllis Dillon avec Woman of the Ghetto.
Oh yeah! Donc, on va revenir maintenant en actualité avec une nouvelle qui nous ramène en Russie. Il me semble que ça fait quelques fois que tu nous y amènes, Jenny, en Russie.
Oui, parce qu'on dirait qu'au niveau des respects des droits de l'homme dans ce pays-là, ça fait comme vraiment dur. C'est ça, ce communiqué de l'Alternative libertaire qui a été publié le 29 janvier dernier sur le sujet de deux assassinats politiques de Stanislav Markelov, un avocat défenseur des droits humains et des mouvements sociaux au syndicat de Russie, et d'Anastasia Baburova, une journaliste à Novaya Gazeta, puis aussi militant communiste libertaire d'Avtonomie Destievi, une organisation dont plusieurs militants ont été assassinés ces dernières années par des groupes d'extrême droite.
Donc, c'est ça, l'extrême droite est très organisée en Russie, puis on voit que c'est quand même... un mouvement qui prend de l'ampleur. Est-ce que tu sais s'il y a beaucoup de groupes qui s'organisent justement communistes libertaires en fonction de ça? Ou...
Ça, je sais pas. En fait, dans le seul communiqué, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a beaucoup de membres justement d'Avtonomie Destievi, l'organisation qui a plusieurs qui ont été tués justement par des nazis de dernières années. Puis ces deux personnes-là ont aussi la particularité d'être engagées dans le combat contre l'oppression et la colonisation de la Tchétchénie. Par l'État russe, on se souvient qu'il y a une journaliste que je suis incapable de prononcer notre famille.
Anna Politkovskaya.
C'est ça, qui a été exonérée, qui est assassinée aussi à peu près dans le même contexte.
OK.
C'est aussi, ce qu'il dit dans le communiqué, c'est aussi à mettre en lien avec la terreur, l'oppression par l'État russe qui empêche toute vie démocratique en interdisant la plupart des rassemblements, des manifestations opposant Poutine, dont les gay pride, des affaires comme ça. Puis les bouts de doigts de grès sont bafoués aussi, liberté syndicale, puis en mettant au pot aussi les médias, ils font pas d'indépendance face au pouvoir russe.
Que de joie. C'est inquiétant quand même ce qui se passe là-bas.
Ouais.
Mais c'est pas pour rien qu'ils comparent Poutine au tsar.
Oui, effectivement, hein, ils se comportent pas mal comme eux autres.
Il est bon là-dedans.
Ouais, en tout cas. Donc, merci, Jenny.
Oui.
Farouko, tu nous as préparé quelque chose sur quelque chose qui t'a trouvé assez étrange cette semaine.
Ouais, ben un autre exemple d'appropriation erronée de titre.
Mm-hmm.
En fait, si vous avez vu sur notre blog, c'est la question plug, mesdames et messieurs, www.voixdefait.blogspot.com. J'avais sorti le jour même, c'est-à-dire le 1er février, un petit texte court sur le fait que la journaliste, je veux même pas la nommer, puis le cas pour lequel ça a été fait, c'est ça a rapport avec le jet set québécois, fait que je m'en fous éperdument. Mais cet article-là laissait entendre que Lise Bilodeau, la chef présidente en fait de l'Association des nouveaux conjoints du Québec, la NCQ, où ça dépend de leur papier. L'action des nouvelles conjointes du Québec, ça dépend comment elles veulent se présenter. En fait, je dis elles, mais si on lit leur site, c'est que masculin. Jamais on ne féminise, sauf pour ce titre-là, étrangement. Alors, dans cet article-là, on plaçait la chaire Claire Bonenfant, si je me souviens bien le nom, au même titre que l'ANCQ, là. Tu sais, c'est vraiment les deux côtés, c'était des féministes. Et il y avait discorde chez les féministes. Ben, moi, je voulais juste faire un petit rectificatif sur l'ANCQ. En fait, dans leurs grosses actions, ils ont une pétition pour faire modifier la loi sur le divorce. Premièrement, quand on se fout du mariage comme moi, on se fout du divorce. Mais bon. Pas ces gens-là. Alors, je vais vous donner une belle citation. C'est marqué « Nous appuyons la NCQ ». Ça, c'est l'intro, en fait, de leur pétition que vous pouvez télécharger. En fait, ils vous envoient le document point .doc. Ouh. Fait que si ça vous tente de vous amuser et de détourner leur pétition en gardant leur en tête, vous avez beau. Parce que ils sont trop grands. Ils vous envoient ça en point d'oeil. Alors, nous appuyons la NCQ dans sa lutte contre la discrimination et les iniquités. lors du divorce. Hein, jusqu'ici, jusqu'ici, tout va bien. Nous les appuyons dans leur démarche pour faire modifier la loi sur le divorce et son application. Oh, toujours rien de trop louche. T'sais, bon, ça pourrait être n'importe quoi. En fait, c'est n'importe quoi, mais pas dans le bon sens. Et la phrase choc, nous demandons que la pension alimentaire à l'ex sans enfant soit limitée dans le temps. Ça, c'est comme, c'est smooth, là. Tu vois, on y va en douceur, là. C'est comme, on trouve que, en fait, les pensions, eux, ils disent que c'est à 99% du temps des hommes qui versent des pensions aux femmes.
Ça doit pouvoir. C'est un peu gros comme pourcentage, quand même. Hein?
Hey, c'est écrit ça sur leur site.
Ouais, c'est ça. C'est...
T'es qui, toi, pour les contredire? Alors, dans leur mission, parce que je me suis dit, ah, c'est bien beau, une pétition, mais ils doivent pas avoir un truc en quelque part écrit « bus et principes », mission, de qu'est-ce qu'on est, nous, tu sais. Alors, dans leur mission, on retrouve une... le gros du jus se retrouve dans une citation ici que j'ai sortie. « Dans beaucoup de situations de séparation ou de divorce, l'acharnement simultané du système judiciaire et fiscal et d'une ex-conjointe, cette fois-ci on féminise, c'est une ex-conjointe. Oui. C'est pas un ex-conjoint, c'est une ex-conjointe. L'ex-conjoint est toujours gentil et docile à la maison. Rendre la réalisation de ce rêve, en... ce qui parle de ce rêve en question, c'est fonder une nouvelle famille, d'où l'Association des nouveaux conjoints du Québec, soit un enfer à vivre, soit un projet irréalisable. C'est vraiment... Je me suis dit, si ça, c'est féministe.
Effectivement, ça élude beaucoup de questions que le féminisme met de l'avant. Là, en tant effectivement, l'égalité n'est pas atteinte, puis que s'il y a plus d'hommes que de femmes qui paient de pension alimentaire, c'est peut-être parce que c'est eux autres qui gagnent plus d'argent que, et qui ont plus de moyens financiers.
Il y a ça, il y a aussi pourquoi c'est toujours, selon eux, ils vont dire... Ils vont te donner, mettons, le vrai pourcentage, c'est pas 99, des fois les masculins ils sortent des vrais chiffres étatiques, tu sais, les statistiques Canada qui sortent ça, mais mettons, le chiffre, ça serait 80% des hommes perdent leur la garde, mettons, là. Eux, souvent, ils sortent des trucs de genre-là, mais ils vont pas dire pourquoi, ils s'en foutent du pourquoi. En fait, pour eux, le divorce, ça tombe à être comme le jour zéro.
Ouais, c'est ça.
On tombe il s'est rien passé avant. Il y a une nouvelle vie qui part là. Il y a deux enfants de l'ancienne vie. Le fait que je m'en sois foutu toute ma vie, tu sais, en tant que mari, ça fait en sorte que on s'en fout. J'ai pas d'affaires à payer pour ça, puis je devrais avoir la garde. Puis si vous regardez les documentaires, Arte en avait fait un documentaire sur le masculinisme, il s'appelle « Au nom du père ». Je l'avais vu à l'Université Laval dans le temps. Et puis en plus, j'ai eu la chance d'en être témoin dans ma vie de tous les jours, les gars divorcés qui reçoivent leur flot pour la fin de semaine ou une semaine sur deux, trois quarts du temps, ils mettent en garde, pas en garderie, mais grand-papa et grand-maman gardent les enfants. Puis dans le documentaire « Au nom du père », ils poussent l'analyse en disant « Le truc, c'est que l'homme veut continuer à garder le contrôle sur sa femme, même si c'est son ex-femme, même si elle a un autre chum, même si elle a une autre vie. » Il veut arriver avec des lois détournées à garder cette personne-là dans un rayon de tant de kilomètres. Souvent, les juges dans plusieurs pays maintenant, ils empêchent les déménagements pour pas que l'enfant il se fasse transporter sur plusieurs centaines de kilomètres à toutes les semaines. Mais
c'est logique.
Oui, c'est logique, mais faut voir pourquoi c'est appliqué. Mm-hmm. Souvent, c'est appliqué. Le gars, c'est demandé d'être appliqué trois quarts du temps, j'ai pas le chiffre, mais en majorité du temps, par l'homme. Okay. Parce que l'homme veut pas que sa femme déménage.
Okay.
Mais comme il disait dans le documentaire, il arrivait pas à répertorier un cas où c'était la femme qui demandait le contrat.
Mm-hmm.
Là, c'est sûr que c'est Arte. Okay. Je sais pas si c'est passé au Canada ou pas, ils n'ont pas parlé, mais eux, tu sais, c'est franco-allemand, Arte. Et il y avait aucun truc de genre-là. Fait que, non, pour en revenir à notre belle Lise Bilodeau, la présidente de l'ANCQ, dans ce cas-ci, on parle vraiment, c'est de la mauvaise foi, clair et net. Les masculinistes n'ont plus la cote. Il y a eu une époque au Québec où les masculinistes tenaient le haut du pavé, pas longtemps, heureusement, là, mais assez pour faire des dommages. On avait beau dénoncer autant pour autant, il n'y avait rien à faire. C'est eux qui avaient les émissions, c'est eux qui avaient le beau côté.
Marc, il y a encore, si on prend le 93.3 cette semaine, on peut encore dire qu'ils ont le haut du pavé, le haut du micro pour certains.
Ils tiennent le gros micro.
En tout cas.
Ben, en fait, vous m'avez fait une belle petite conclusion. Je me suis dit, Lise Bilodeau est au féminisme ce que Stephen Harper est à l'anarchisme.
Ouh!
Ouais, j'étais parti sur une analogie avec des chefs fascistes, mais je me suis dit, tanné de ces analogies-là.
Prenons donc. Harper, chef fasciste, nous, ça fait mon affaire.
Ah oui? faudrait une analyse historique. Donc, si vous voulez bien vous marrer, allez voir le site de l'ANCQ. En fait, tapez ANCQ sur Google, l'adresse était vraiment trop chiante à noter. Et un site vraiment mal foutu. Mm-hmm. As-tu d'autres actus ou on continue en musique?
Non, on continue en musique.
On continue en musique avec une pièce que j'ai déjà passée à cette émission, mais étant donné que nous sommes dans le mois de l'histoire des Noirs, je me suis dit que Orange M, parce que d'après moi, s'il disait Orange Mécanique, il y avait des problèmes de droit d'auteur, de KDD, en était une excellente pièce.
La douce France, l'ange loin des consciences, la renommée des enfoirés gamés, atteint le sommet, les dents embrassées, dépassées ou complices. Les sans-papiers sont expulsés par la police. À gauche, on fout des droites pour que la droite tombe. À droite, on met deux ans à ceux qui profanent les tombes. La justice est un acte quand elle opte pour le vice. Elle transpire la politique et crédite le préjudice. Dans les couloirs de référendum, on parle des droits de l'homme. Salam alaikum, on baise un coup, on se dit shalom. Tandis que dans ma ville, la haine se distille. Black plumber se tartine la coupe de regard hostile. Guerre civile, interpaque dans les bars. Les bases à l'incendiaire, les pays combattent le désespoir. On les trique, des boîtes, on les juge pour leur sap. On leur court après éclate quand les flics les rattrapent. Alors ils foutent la merde, ils n'ont plus rien à perdre. Ils font des casses, amassent la liasse, sans votre aide. Je plaide non coupable, je connais le malaise. Pour nous le FN n'est pas un sondage mais une falaise. Loin des camps militaires, le système devient hostile. Sur sa terre d'asile, le réfugié vit l'enfer de l'asile. Mes yeux voient et les non-voyants aux yeux truffés de pièges. Voter FN n'est plus aller brûler un cierge. Le noir, le blanc, pour moi que symbolique. Jouant les mauvais atouts, jouant les hypocrites. On tape des mains pour le black qui danse à la télé. On claque à coups de claque celui qui claque dans sa cité. C'est le noir contre le blanc, c'est le sang contre le sang. Ce qui revient à dire, c'est le blanc contre le blanc. Orange mécanique, noir contre blanc. Sang contre sang, blanc contre blanc. Orange mécanique, c'est le noir contre le blanc, c'est le sang contre le sang. Ce qui revient à dire, c'est le blanc contre le blanc. Orange mécanique, noir contre blanc. Sang contre sang, blanc contre blanc. Orange mécanique, mais Gaston, où va-t-on? C'est trop vieux pour les bastons. Les Renoirs et les Rouges savent aussi manier les bâtons. Mais pas de pression, revenons sur tes positions. Le rap comme le FN nourrit la haine des mauvais garçons. Hitler, back in the house once again. Il essaie de corrompre la génération Calvin Klein. Donc que fait-on? Moi j'opte pour le vote. Voix impénétrable alors, pétrole mes votes. Si tu t'abstiens, c'est l'extrême qui en écope. Et la pluie de bise, que des keufs en Robocop. Sans tes palpes, ton pouvoir électoral. Électrocute les sondages, la scar fait du sale. Il faut remanier la France à notre sauce couscous. Que la mer clabousse, l'Élysée danse la secousse. Que des vapeurs, du bruit de l'odeur. Pas de peine, faut plonger le pain dans un film d'horreur. Car mon père paye encore les pots cassés. Masse au garde opposé, le dos fracassé. Sa vie passée à éviter, les mots déplacés. Style, t'as de belles fesses, mais reste à le cul cambré. Puis désintégrer une culture dans le vent. Je reprends le flambeau, reprends le devant. Smoke the mic, représente ma négritude. FN voici l'altitude de mon attitude. C'est le noir contre le blanc, c'est le sang contre le sang. Ce qui revient à dire, c'est le blanc contre le blanc. Orange mécanique, noir contre blanc. Sang contre sang, blanc contre blanc. Orange mécanique, c'est le noir contre le blanc, c'est le sang contre le sang. Ce qui revient à dire, c'est le blanc contre le blanc. Orange mécanique, noir contre blanc. Sang contre sang, blanc contre blanc. Orange mécanique, c'est le noir contre le blanc, c'est le sang contre le sang. Ce qui revient à dire, c'est le blanc contre le blanc. Orange mécanique.
Alors, de retour à Voix de fait, Donc, ben, ce soir, malgré son absence physique derrière le micro, notre camarade Nicolas nous a préparé un petit reportage sur le lancement du dossier noir Logement et pauvreté du Frappru, de même que sur un film d'Ève Lamont sur le camp des 400 qui a eu lieu l'été dernier. Donc, on écoute ça.
On vit dans une société riche, mais on respecte même pas un droit fondamental, un droit de base, le droit à un toit où tu peux vivre en sécurité, ouais, dans la paix, dans la dignité. Ouais. Comment ce qu'on veut au Frappru, c'est de doubler le nombre de logements sociaux qui existent au Québec. Et ça, on veut dans un délai qui est raisonnable. Pour avoir des droits, des sous et des droits. Et c'est belle valeur, mais on ne restera pas sans voix. Merci.
L'an dernier, en plein 400e de Québec, le Frappru est venu planter ses tentes au centre-ville, au parc de l'Amérique française. Ça a donné le camp des 400. Ève Lamont, réalisatrice militante à qui on doit notamment le film Squat, est venue faire un film à la demande du groupe de locataires, film qui sera présenté la semaine prochaine à l'AJT. Voici quelques extraits du camp des 400 pour vous mettre l'eau à la bouche.
Non, je ne croirais pas que Agnès Maltais ait dormi ici.
Je vous souhaite la bienvenue au camp des 400. Les 400, c'est les sans-toit, les sans-sous, les sans-droits et les sans-voix. On a l'impression que le problème du logement n'existe plus au Québec parce que les taux de logement inoccupés ont augmenté, parce que moins de familles qui sont sans logis autour du 1er juillet que c'était le cas auparavant. D'abord, il y a toujours une rareté de logement au Québec. Donc, ce qu'on a voulu faire aujourd'hui, nous autres, c'est de dire... Le problème du logement, c'est pas vrai que c'est résolu, c'est loin d'être résolu.
C'est vrai! C'est vrai! C'est vrai!
Logements sociaux!
C'est vrai!
Ensemble!
Un, deux!
Encore!
Trois, quatre!
La cadence!
Un, deux, trois, quatre!
Y'en a pas de logement, y'en a pas de logement, si y'en a, ils sont chers, ils sont chers!
Y'en a pas de logement, y'en a pas de logement, si y'en a, ils sont chers pour nous!
Des témoignages.
Je suis arrivé au papier parce que on avait un très mauvais propriétaire, on avait des rats, on avait des plafonds qui coulaient. Puis quand j'ai vu qu'il donnait des excellents services, puis en plus qu'il organisait des actions plus de nature politique, ben j'ai embarqué dans le comité de mobilisation.
De l'éducation populaire.
Moi, je participe pas des manifs parce que je suis pas de même, moi. Non, moi, je suis pas de même.
C'est le démon, moi, je suis pas de même. Souvent, c'est un argument qu'on se fait présenter. Soit, moi, je suis pas de même, ou, ah ouais, ça en prend du monde comme vous autres. Qu'est-ce qu'on répond à ça?
Des réflexions.
Dans ma tête, je pense souvent au mot solidarité. Puis pour moi, faut pas que ça reste juste un mot. Faut que ça commence quelque part. Ça va rayonner. Puis il va y avoir plus de gens qui vont être solidaires, j'imagine. C'est les raisons pour lesquelles que j'appuie le monde. Là, j'ai des frissons.
Ce qui est des résultats, c'est peut-être pas tangible dans les médias, mais il va y en avoir des résultats.
Des rencontres.
Nous autres, il y a de la répression policière, mais c'est probablement moins pire que vous.
Elle est individualisée.
Ils n'envoient pas l'armée pour un groupe de pauvres qui fait une manifestation.
Je pense que c'est plus un nettoyage dans les villes. Moi, je vois à
le
Montréal.
Nettoyage social.
Voilà, nettoyage social.
C'est le
dans
nettoyage
la
social.
Si tu te dis, admettons, on va se mettre à organiser les gens sans logis, pour eux, ça devient un groupe,
ouais,
qui n'a plus rien à perdre.
C'est ça, je
et qui, dans sa lutte, garde sa, au moins gagne sa dignité. Parce qu'ils, ouais, savent qu'effectivement, comme il n'y a rien à perdre, et bien effectivement, les copains iront jusqu'au bout de la lutte.
Ils ont peur de la révolution.
Ouais. Ils ont peur de ça. Ils ont peur que les copains, à un moment donné, soient assez nombreux pour effectivement qu'il y ait une vraie révolte, tu vois. Ah là, c'est ça leur angoisse, tu vois.
Et même des chansons.
J'ai beau aimer traîner dehors, il faut bien dormir quelque part. J'habite un logement de misère qui me prend la moitié de mon salaire. Avec deux, trois colocataires, on s'empile pour passer l'hiver. arrive une lettre du proprio, une compagnie à numéro. Faut quitter les lieux au plus tôt, on habite un futur condo. C'était à prévoir le quartier, avec les yuppies a changé, y'a plus rien qu'on peut se payer, on est devenus des étrangers. Oui, ça me va qu'on déménage, j'étais tanné du paysage, mais ce qu'on trouve dans les parages, pour nos moyens, c'est un garage. Bien sûr, il y a plein d'appartements pour ceux qui font beaucoup d'argent. C'est fini la crise du logement, les politiciens sont contents. Ma chanson finit un peu raide, c'est déprimant, je le concède, mais j'ai pas trouvé de remède. Les propriétaires nous possèdent, c'est la morale ça. Les propriétaires nous possèdent, les propriétaires nous possèdent, les propriétaires nous possèdent, les propriétaires nous possèdent.
Et même, aux surprises, des speeches.
Au quartier, on a trouvé important d'être présent pour les 400 ans de Québec pour faire entendre un autre son de cloche. L'histoire, c'est pas juste une question de grands personnages. L'histoire, c'est le vrai monde. L'histoire, c'est le monde qui lutte pour résoudre ces problèmes-là. C'est ça l'histoire, et c'est ça qu'on voulait rappeler.
Yo, c'est encore meilleur avec les images. Pour voir ça, venez faire un tour au 5 à 7 du Frappru, à l'AJT, mercredi le 11 février, tout de suite après le lancement du dossier noir. Manquez pas ça.
Alors... Oh, désolé.
Problème technique.
Alors, donc, pour le lancement du film et la brochure, comme il a été dit, c'est le 11 février, c'est de 17h jusqu'à 19h pour le lancement de la brochure et de 19h pour le visionnement du film, 18h30, pardon, la projection du film Québec 2008, Camp des 400. Ensuite, pour ce qui est des plugs cette semaine, il y a les Mardis de l'Anarchie qui ont repris, hier, ou mardi cette semaine, qui ont repris, et la semaine prochaine, le sujet sera anarchiste et style de vie, éthique, morale, purisme, réalisme et solidarité. Donc,
des lifestyles.
Yeah. Mais c'est plus, ça va plus loin que le lifestyle, là. C'est plus des questionnements comme sur qu'est-ce qui est éthiquement correct pour
l'anarchiste. Ouais, mais avant que l'expression soit tournée de manière péjorative, c'était lifestyle, c'était se l'appliquer quotidiennement, c'était pas c'est juste défraîchi, tu sais.
Ah, d'accord.
Au début.
Ouais, c'est ça. Mais maintenant, ça l'est. En tout cas. Bref, ça risque d'être intéressant. Si vous avez des questionnements par rapport à ça, c'est le mardi, le 10 février, à partir de 19h, je crois, donc au Café Bar l'AJT. Fait que ça fait le tour pour cette semaine. Donc,
c'est pas mal ça.
Ouais. Vous écoutiez Voix de fait avec
Jeannie,
Farouko et Guillaume.
On va finir avec Cocktail Molotov de Yabasta pour un grand ami à moi. S'il écoute, sinon tant pis pour lui, puis les autres, profitez-en. Bonne semaine.
Tu as foncé dans une résoir de la dernière cuite du mois. Qu'un cocktail qui fasse la terre. Il s'envoie direct en enfer. Il arrache au sommelier. C'est celui qu'on lance comme une pierre.
cocktail molotov. On veut les exploser. Ma cocktail molotov. On veut les exploser. Ma cocktail molotov. On veut les exploser. Ma cocktail molotov. On veut les exploser.